essayé par le dessin. J'ai vite fait abandonner vu les résultats. Donc voilà, j'avais beaucoup d'images en tête. C'était une inspiration très visuelle à chaque fois. Peut-être parce que j'ai une culture plutôt graphique, côté BD, manga, cinéma. Et j'arrivais pas à rendre aussi bien que je l'aurais voulu en dessin. Donc je me suis essayé à l'écriture et ça coulait plus librement. Donc c'est devenu vraiment un passe-temps très important à ce moment-là. Et de fil en aiguille, les petits textes que j'ai créés se sont liés entre eux. Il y a eu des personnages récurrents et j'en suis arrivé à concevoir un premier roman. Qui a pris environ 4 à 5 ans pour l'écrire, le corriger, le retravailler et peut-être 2-3 années de plus avant d'être publié.
Tu es à la fois romancier et nouveliste, vrai, vu que tu travailles à la fois sur le format long et le format court. Est-ce que tu abordes différemment le travail sur l'un et sur l'autre? Et de quelle façon, en fait, en termes de travail, ça diffère au niveau de ton écriture et préparatif?
Alors c'est vrai que déjà, entre les deux formats, donc le roman et la nouvelle, j'ai souvent des inspirations différentes. Le roman sont des histoires qui vont souvent naître au cours d'écoutes musicales. C'est sur des morceaux précis, j'ai des images qui me viennent en tête et ça donne naissance à des romans. Vraiment, je visualise pas forcément des mondes, puisque ça peut très bien se passer chez nous, mais des scènes très concrètes. Et je décide de les garder, je les développe plus en histoire. Les nouvelles, ce sont plus des interrogations personnelles que je peux avoir sur le monde qui nous entoure. Et je me force à concevoir une histoire qui va m'apporter une réponse. Qui traitait du handicap par exemple, des recherches identitaires. Donc voilà, il y a quelque chose de plus concret chez moi, on va parler de nouvelles. Et après au niveau de la construction, vu que la nouvelle est limitée en nombre de pages, j'essaie de bien penser aux éléments qui vont être nécessaires au lecteur pour s'immerger dans cet univers sans avoir la frustration que cet univers n'est pas développé sur beaucoup de pages. C'est souvent ce que les lecteurs peuvent dire sur les salons, c'est « Ah, moi j'aime moins les nouvelles parce que j'ai pas le temps d'entrer dans l'univers, je suis frustré quand c'est fini. » Donc j'essaie de doser les éléments qui sont nécessaires à comprendre cet univers, à comprendre la situation initiale, avoir amené cette question que moi j'avais envie de poser avec cette nouvelle et d'apporter la réponse. Et si ce cycle est bouclé, normalement le lecteur a moins de frustration au terme de cette nouvelle. Donc c'est une construction un petit peu plus chirurgicale que le roman, parce que le roman, je peux prendre le temps de développer les choses, faire des détours. La nouvelle, je vais droit au but avec les éléments qui me semblent essentiels à la compréhension de l'histoire et à l'immersion dans l'univers.
Par quoi démarre ton travail quand tu te lances dans un nouveau projet? D'où vient en général l'idée de départ? Tu as peut-être commencé à donner des réponses, mais
est-ce qu'il y a des premières étapes après qui me viennent?
Ouais, alors du coup là c'est vrai qu'on a un peu abordé la question avec soit des images qui me viennent en tête grâce à des musiques, ou même des fois inconsciemment c'est des anciennes références que j'ai, soit de livres que j'ai lus quand j'étais enfant, ou des films qui m'ont marqué. Les scènes qui me viennent, j'arrive à retisser le lien un petit peu après en ayant commencé à écrire. Je vois un petit peu ce qui a pu m'inspirer à ce moment-là. Pour les nouvelles, donc, ce sont des interrogations personnelles avec le regard que je peux porter un petit peu sur ce qui m'entoure. C'est vrai qu'il y a une autre source d'inspiration qui m'est arrivée plus récemment, c'est l'inconscient, c'est dans les rêves. Ma dernière saga, j'en ai rêvé une nuit, je me suis réveillé, et grosse nuit blanche, impossible de me rendormir. Les personnages se mettaient à exister et à interagir entre eux. Donc ça, c'est vraiment la petite étincelle de départ. Donc soit une image pour la musique, soit une interrogation, soit un rêve qui me marque. peut-être un thème aussi des fois que j'ai envie d'aborder, notamment quand je fais des concours de nouvelles où il y a un thème imposé. J'aime bien cet exercice parce que ça me force à travailler mon imagination de manière moins libre, vraiment sur un thème qu'on m'a imposé. Ce qui me permet d'être un peu plus polyvalent quand je dois aborder un thème, essayer de réfléchir à un angle plus ou moins original, ou une façon de le traiter plus ou moins original. La seconde étape, après cette étincelle, je ne suis pas du genre à prendre des notes ou à commencer à rédiger des idées. Je laisse maturer un certain temps. Mon roman Even Dead, entre l'idée de départ et le début de la rédaction, il y a eu 4-5 ans. J'attends que les scènes se construisent d'elles-mêmes. Donc je laisse, c'est un travail d'imagination. Et quand la scène est vraiment construite à un point où ça m'habite, je commence à écrire. Donc il n'y a pas vraiment de travail préparatoire de prise de notes entre l'idée et la rédaction. Par contre, une fois que j'ai commencé la rédaction, selon le contexte, il y a plus ou moins un travail de recherche qui peut se lancer, si c'est historique, architectural, ça dépend des scènes que j'ai besoin d'illustrer. Mais ça vient après.
Alors, au niveau de ton travail d'écriture, une fois que tu es lancé, est-ce que tu as encore des techniques particulières pour structurer tes textes ? Donc, je pense à un plan qui a déjà bien répondu, des post-it, des fiches de personnages. Je sais que certains auteurs, qui sont anciens rôlistes, créent leurs fiches de personnages comme si c'était pour les jouer lors d'une partie, et du coup, ça sert des caractéristiques, tire des caractéristiques pour essayer d'avoir mon profil finalement. Est-ce que tu as des tips comme ça, des usages?
Alors j'ai des tips, on va dire, mais qui ont évolué au fil du temps. C'est vrai que j'ai commencé par le jeu de rôle. Donc souvent, il y avait la création du personnage en amont, vraiment avec la caractéristique du jeu, la fiche de perso comme on l'entend. Et je me servais de l'écriture pour créer tout un background pour le personnage. Et donc forcément, j'avais déjà les traits de ses caractéristiques physiques, sa personnalité. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a accompagné au début, mais dont je ne me sers plus. Ce que j'aime bien avoir, c'est des balises au niveau du plan narratif. C'est-à-dire, il y a des étapes au niveau de l'histoire où je sais que je vais forcément passer. Voilà, il va se passer tel événement, il va y avoir tel personnage qui va arriver, ça va se finir comme ça. Et entre ces balises par lesquelles je vais passer, j'aime bien me laisser plus de liberté et ne pas avoir réfléchi au plan avant. Donc, ce qui fait que dans Even Dead, par exemple, il y a des scènes qui ont été rajoutées qui n'étaient pas du tout prévues au départ, qui se sont imposées d'elles-mêmes à force de développer les personnages. J'aime bien cet équilibre entre improvisation et construction en amont. Ça, c'était vrai pour Even Dead. Pour Elvira, comme c'était un format feuilleton, où on avait vraiment besoin de certaines structures comme le cliffhanger en fin d'épisode ou des choses comme ça, là, le schéma était un petit peu plus construit auparavant. Je savais combien il y aurait de chapitres par épisode et un peu ce qui se passerait par chapitre. Donc là, j'avais un petit tableau avec un petit résumé sur ce qui va se faire. Donc, chaque projet, en fait, j'ai des techniques différentes, mais qui s'imposent par rapport au format ou par rapport à mes envies, ou si l'histoire est très présente ou si elle est encore un peu floue, ça va être soit l'inspiration, soit la préparation qui va primer sur les deux. Mais j'essaie toujours d'avoir un petit équilibre entre les deux, entre improvisation et préparation.
Comment abordes-tu l'écriture des dialogues dans tes textes ? Je sais que c'est quelque chose qui peut être assez problématique pour certains auteurs, c'est l'intégration justement des échanges oraux entre les différents personnages. Quelle place leur accorder par rapport à la narration dont on va parler ? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu t'attardes ? tu vas beaucoup détailler, ou au contraire, est-ce que c'est quelque chose que tu vas essayer d'utiliser avec parcimonie et davantage te concentrer sur l'action en fait?
Alors c'est comme tout, hein. Chaque projet a eu un peu son importance. C'est vrai que mon premier roman, on suivait un protagoniste très introverti. Il y avait très peu de dialogue, mais après en même temps, comme il y en a peu, ceux qui étaient là étaient clés, ils étaient importants, donc il ne fallait pas les rater non plus. Donc c'est pas forcément la quantité qui va faire l'importance que va prendre la part des dialogues dans l'histoire. Après, j'ai eu l'occasion de travailler en tant que scénariste sur une bande dessinée. Donc là, forcément, toute la narration passe dans l'image. Donc ce qui reste de texte, c'est les dialogues. Donc on ne peut pas se louper. Il faut vraiment qu'il soit à la fois concis, parce qu'il y a des soucis de place, à la fois très juste, il faut que ça corresponde au personnage. Donc ça m'a permis de faire un gros travail sur les dialogues. Et maintenant, je pense qu'il y a un équilibre nécessaire. De toute façon, les personnages sont obligés d'interagir entre eux, et il y a une grosse part de ça qui passe par le dialogue. Et ça permet aussi de refléter la personnalité des différents protagonistes sans passer par la description narrative. Donc j'essaie d'y apporter un soin tout particulier, surtout dans des contextes différents, si c'est des personnages du 19e siècle, ça se met de la même façon, si c'est des ados contemporains, pareil. J'ai du mal à être vulgaire dans mes dialogues, alors que certains personnages, ça ne peut pas très bien s'y prêter. J'essaie de faire des efforts. voilà. C'est presque du théâtre. Il faut se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre. Il faut créer la personne et lui faire parler après. Donc, c'est dans ce cas-là qu'on sent qu'on est plusieurs dans notre tête.
Il y a des thématiques récurrentes dans tes textes, notamment je pense à justement au problème identitaire sur lequel j'ai échangé lors d'une interview. Le recours à ces thématiques se fait-il de manière consciente, sans même que tu t'en rends compte, en fait, tu te retrouves dans la continuité de ce que tu as déjà pu écrire, dans finalement des sentiers que tu as déjà balisés? Est-ce que tu as une attirance particulière pour ces thématiques-là, en fait, que tu envisages de creuser sous des angles d'attaque différents?
Alors oui, tu cites la recherche identitaire, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans mes textes et qui est revenu de manière spontanée, on va dire. Donc il n'y avait pas un calcul de ma part pour traiter ce texte sous différents angles. Il est apparu tout d'abord à travers les nouvelles, donc à nouveau ce questionnement que je peux avoir sur les choses qui m'entourent. Et donc, je pense que la recherche de soi peut être quelque chose qui me creusait intérieurement. Du coup, quand j'ai décidé de compiler les nouvelles sous forme de recueil, c'est là vraiment que je me suis aperçu qu'il y avait ce fil rouge qui se retrouvait de nouvelle en nouvelle. Pas forcément traité de la même façon, pas dans le même genre littéraire, pas à travers le même questionnement. Et je pensais avoir fait le tour. Et quand j'ai commencé à écrire Even Dead, les premiers thèmes que je voulais aborder, c'était la distance physique, la relation charnelle, la question du deuil. Et une fois encore, la question de la recherche identitaire à travers le vampire Josiah s'est imposée d'elle-même. Donc le questionnement entre monstre ou humain, et voilà, je me suis fait avoir encore. J'en ai remis une couche. Donc apparemment, j'ai pas fini avec le sujet. Et je pense que ça va revenir assez fréquemment. Et finalement, ça permet au lecteur de voir le personnage se construire sous ses yeux. Il arrive à un moment clé de sa vie, il le voit évoluer, on ne lui présente pas un produit fini, il participe à l'évolution du personnage. Donc, je pense que c'est pas plus mal, c'est peut-être pour ça qu'il y a des gens qui sont liés à certains des personnages, qui ont adhéré à leurs propos ou à leur évolution. Il y a des thèmes calculés dont j'ai envie de parler, et d'autres qui se sont imposés d'eux-mêmes. Ça fait un tout. C'est pas plus mal, je suis surpris moi aussi parfois.
On a abordé le cas de son dernier ouvrage en date, donc Elvira Time, qui en plus est dans la thématique du salon, ça tombe bien. Donc, est-ce que tu peux nous parler en fait finalement de la genèse de ce projet numérique sur la thématique d'une chasseuse de vampires et savoir en fait si ce support, on est certes sur du format court, mais est-ce que le fait que ce soit du numérique, finalement, ça influence aussi ton travail d'écriture sur les différents chapitres? Et si oui, de quelle façon? Mais déjà, je pense peut-être donner l'historique du projet, donc l'idée de base, comment tu as décidé de structurer ça, pour aller où en fait.
Donc Elvira Time, c'est le projet dont je vous parlais, qui est né suite celui-ci, suite à un rêve. Donc il y a les personnages qui sont imposés à moi. Nuit blanche, ils ont évolué chacun de leur côté. Je commence à visionner les scènes, les interactions entre les personnages. Je pense que ça s'est imposé parce que au niveau des Evil Dead, on était vraiment dans la romance noire. Au niveau de l'écriture, c'était quelque chose d'assez éprouvant. Je gardais un état émotionnel assez proche du personnage principal et j'avais ce besoin de m'alléger un peu l'esprit et d'écrire un truc un peu plus marrant par la suite. Donc ces personnages un petit peu plus caustiques, acidulés, se sont imposés d'eux-mêmes. C'était la première fois d'ailleurs que ça s'imposait avec tant de violence chez moi. Et du coup c'est à ce moment-là qu'aux éditions du Chat Noir on a commencé à penser à l'idée du feuilleton numérique. Parce que comme on avait les deux collections qui commençaient à exister, donc les versions papier et les versions numériques, et on voulait proposer des exclusivités dans l'une et dans l'autre. Et au niveau du numérique, l'aspect feuilleton, épisode, me semblait idéal. Proposer des produits pas trop chers, évolutifs. Moi, ce qui me plaisait, c'était l'idée de réciprocité avec les lecteurs. Qui lisaient les épisodes au fur et à mesure et qui pouvaient intervenir et éventuellement influencer sur la suite de la saga avec des personnages qui allaient avoir plus développés ou moins développés, des rebondissements qui seraient plus suggérés. Donc j'avais envie de créer ce lien un petit peu plus précis avec les lecteurs, autre que de proposer un produit fini et après d'avoir un retour sur l'ouvrage. Et au niveau de l'écriture, ça m'a laissé. C'est plus décousu dans le temps, vu qu'il y avait des sorties décalées, ce qui m'a permis de penser d'abord au premier épisode et ainsi de suite. Donc il y a eu une maturation en plusieurs étapes, différemment au roman qui souvent a une meilleure globalité dans sa conception. Suite, ça m'a posé des problèmes parce que justement comme j'y étais pas habitué, il y a des événements qui se contredisaient un petit peu d'un épisode à un autre et il a fallu trouver des passerelles et c'est devenu un exercice de logique qui n'était pas inintéressant mais qui n'était pas prévu au départ. Donc un petit peu le revers de la médaille de laisser la place à l'improvisation. Du coup ça s'est fait comme un puzzle, il a fallu trouver une nouvelle pièce à emboîter mais ça s'est bien fait, j'ai eu l'aide de Morgane Cossario et Georgia Cadera qui étaient bêta lectrices sur la saga, donc on a bien peaufiné chaque épisode et puis ça s'est fait comme ça. Et il y avait des nouvelles contraintes, jouer sur le côté feuilleton série américaine, c'est imposer des cliffhangers en fin d'épisode, donner l'envie aux gens de découvrir l'épisode suivant, donc c'est des contraintes assez drôles, d'être un peu de maîtriser le côté sadique en faisant une suite qui demande à être lue tout de suite mais qui n'arrivera que dans 3 mois. Voilà, c'était assez agréable. Donc il y avait des bons côtés, des mauvais côtés. Là, la saison 2, je pense que je vais plus la préparer en amont et la sortir un petit peu plus tard du coup.
Tu as dit à un moment justement que ça te permettait d'être plus ouvert au retour de tes lecteurs entre les différents épisodes. Est-ce que tu as des cas en fait en tête d'épisodes en fait où l'idée en fait finalement ou certains twists t'ont été soufflés par les gens en fait qui te suivent et avec qui tu échangeais lors de l'écriture de tes chapitres?
Alors des événements précis non, parce que finalement le temps que la série se fasse un peu connaître, le schéma narratif du tome 1 était déjà fini et il n'y a pas eu d'idées proposées au point de le changer Après, j'ai lu quelques chroniques et j'ai vu que tel personnage avait plus ou moins plu, ou ils avaient trouvé l'idée originale. Donc après, j'ai creusé un petit peu selon les premiers retours que j'avais eus. Mais c'est plus des approfondissements où, voilà, si j'ai vu que ce genre d'humour avait plu, j'ai un petit peu continué dessus. Si je voyais qu'il y avait des trucs qui passaient mal parce que ça devait être trop cliché, soit j'ai atténué, soit j'en ai joué justement. Ça, c'était plus des ajustements au niveau de cette saison-là que vraiment des changements de schéma narratif ou d'apparition de nouveaux événements.
Tu es donc également directeur de collection aux éditions du Chat Noir. Est-ce que cela a une influence sur ton travail d'auteur en fait ? Est-ce que le fait d'avoir aussi la casquette d'éditeur finalement, ça t'a fait reconsidérer ta manière d'écrire et certains choix que tu peux faire en te disant, alors en tant qu'auteur, je trouve ça génial, j'aime beaucoup l'écrire, mais je sais qu'en tant qu'éditeur, il risque d'avoir un blocage parce que les thématiques abordées, parce que les choix narratifs entre les dialogues ou pas les dialogues peuvent jouer aussi au niveau du décisionnel finalement et des choix de publication.
Ça a une influence sur mon travail d'auteur, ça me fait déprimer. Quand je lisais mon manuscrit, je me dis pourquoi je m'embête à écrire, il y en a qui font beaucoup mieux que moi. Donc c'est pas forcément une bonne chose de lire des manuscrits tous les jours. Et puis il y a aussi l'envie de ne pas être influencé par le travail des autres. Mais quand je suis obligé de lire beaucoup de manuscrits, de retravailler avec les auteurs au niveau éditorial, je leur apporte des conseils, mais c'est pas forcément des choses que j'ai envie de réexploiter pour mes propres romans. Donc c'est dur de faire la part des choses. C'est vrai que quand j'ai des thématiques précises sur mes projets suivants, j'essaie de me dédouaner de tout ce qui se fait en ce moment. Donc si j'ai envie d'écrire sur les vampires, je vais rien lire. Je sais que dans Elvira Time, il y a un petit spin-off qui s'appelle Dentier versus Zombie, avec des zombies dans une maison de retraite. Et au même moment, Fabien Clavel a sorti un livre un petit peu sur la même thématique. Donc on en a rigolé entre nous, mais du coup... je m'empêche de lire le sien alors que j'ai très envie de le lire, mais je le lirai après avoir fini avec Elvira. Donc le fait de devoir travailler en tant qu'éditeur, des fois, ne me permet pas de me couper comme je le voudrais avec certaines thématiques. Donc des fois, il y a un petit côté positif, c'est que quand je vois ce qui est fait, j'essaie de me pousser encore plus à chercher une originalité. Après, que je réussisse ou que je réussisse pas, c'est autre chose. Il y a certains styles d'écriture qui peuvent m'influencer positivement. Je pense à Marianne Stern qui a une plume très lyrique, très poétique, et c'est quelque chose sur lequel je voulais tendre avec Evil Dead. Donc ça me pousse à vraiment travailler ce côté-là. Mais sinon, ça a plutôt tendance à me freiner dans mon travail d'auteur, à couper un petit peu la motivation, que ce soit en termes très basiques de temps ou en termes d'envie. C'était plus facile quand on n'est pas édité, on a le temps d'écrire, on a le temps de construire son histoire. Si on a une deadline pour rendre un roman, on est obligé de s'y mettre, c'est plus un travail à part entière. Donc, comme ça a tendance à me freiner, ça fait une situation un petit peu délicate. Donc j'attends le bon moment. Comme j'ai plusieurs projets en parallèle, souvent il y a une envie qui émerge plus qu'une autre, et ce qui me permet, si j'ai envie de bosser sur du divertissement, je vais avancer un peu à Elvira. Si j'ai envie de revenir à du drame, j'ai le spin-off d'Evil Dead ou j'ai d'autres projets un peu plus sombres. Donc selon ma motivation et mes envies, je navigue, je suis seul. Ça avance un peu moins vite. Mais le travail d'éditeur est tout aussi passionnant. Donc, c'est à la fois une fierté d'accompagner les auteurs jusqu'à sortir leur roman et d'essayer d'optimiser avec eux. Il n'y a pas d'amertume quand je dis que ça me rend. Je prends mes responsabilités quand j'ai besoin d'être.
Pour parler de ton travail d'éditeur, justement, en tant que directeur de collection, tu dois voir donc passer pas mal de manuscrits dans tes mains. Quels sont les conseils que tu donnerais à des auteurs en mal de trouver une maison d'édition ? Y a-t-il des erreurs que tu vois souvent en fait qui sont particulièrement rédhibitoires quand on adresse un manuscrit à une maison d'édition ? Parce que c'est un long parcours du combattant de trouver un éditeur. Donc il y a des écueils en fait, je pense que les jeunes auteurs ne connaissent pas forcément des choses minimales à avoir quand on envoie son manuscrit. toi et vous au jeu noir même, est-ce qu'il y a des choses en fait qui font que tel manuscrit serait d'office écarté ou des choses qui peuvent pencher la balance ou,
Alors l'élément qui fait que le manuscrit va être d'office écarté et qui malgré le nombre de points calculables où on le répète arrive toujours, ce sont les gens qui envoient un manuscrit sans voir les sans aller voir sur le site internet les consignes qui se renseignent pas sur la ligne éditoriale de la maison d'édition, mais je pense que ça arrive à tout le monde. Nous on est une maison spécialisée dans le genre fantastique. Quand on reçoit de la fantasy ou de la science-fiction, bah, on est au regret de répondre à la personne en 2 heures, on ne lira pas votre manuscrit parce qu'on ne publie pas ce genre littéraire. Et c'est dommage pour lui parce que c'est embêté. Des fois, on reçoit des lettres de soumission très très longues, très bien construites, avec des arguments très intéressants, mais on ne publie pas. Donc s'il avait pris juste 2 minutes pour aller lire la fac sur notre site internet, bah, il n'aurait pas fait l'erreur. C'est bête à dire, mais c'est le principal, c'est de se renseigner sur les maisons d'édition où on va envoyer. Et de toute façon, c'est primordial pour vous parce que chaque maison d'édition a une ligne éditoriale, donc un type de roman ou un genre ou une façon de concevoir tel genre qui va primer. Si vous ne vous renseignez pas sur la maison d'édition dans laquelle vous allez soumettre, c'est un peu faire du porte-à-porte, quoi. Vous allez optimiser vos chances en faisant d'abord des recherches sur les éditeurs, en sachant ce qu'ils font. Pas forcément avoir lu 2-3 romans, on va pas pouvoir s'acheter des romans, mais se renseigner peut-être des chroniques, ou voir leur catalogue. Et quand vous savez si votre titre correspond ou pas à la maison d'édition, là vous pouvez essayer de le vendre, de l'argumenter. Ça c'est une deuxième étape. Donc la première étape c'est vraiment se renseigner sur les maisons d'édition qui vont être susceptibles de choisir votre roman parce qu'il appartient à leur ligne éditoriale. La deuxième, c'est de savoir le présenter en quelques lignes. Donc c'est pas forcément, comme on peut le voir, envoyer un courrier où on est vraiment sûr de soi, où on pense avoir écrit le meilleur roman au monde. C'est trouver les 2-3 arguments qui font que vous pensez que votre roman sort du lot. Et l'originalité que ça peut apporter, pourquoi il devrait exister parmi tous les romans du même type qui existent déjà. C'est pas forcément un travail facile parce que moi je suis très mauvais à ça. Quand j'écris un roman, l'histoire que j'ai envie de raconter, il n'y a aucun calcul éditorial derrière. Donc quand je me retrouve à chercher un éditeur, ça peut être la croix de la bannière. Je sais qu'il y a des auteurs qui savent très bien ce qui fonctionne à un moment donné du marché, et qui vont réfléchir à voilà, je vais optimiser un manuscrit en écrivant telle ou telle histoire parce que je sais que ça marche. Moi je me retrouve à publier des romans avec une phrase en anglais comme titre, un truc pas vendeur du tout, des couvertures avec des visages coupés, bref, je pense que si on avait pas eu Chat Noir pour le sortir, personne n'en aurait voulu. Ou il m'aurait fait changer le titre ou la couverture et ça n'aurait pas été le roman que je voulais. J'étais content d'avoir cette liberté-là. Il y a écrire ce qu'on veut et savoir le placer dans le marché actuel. Donc c'est trouver les 2-3 arguments que vous allez favoriser dans votre lettre de soumission. Et puis après, c'est avoir un petit résumé ou les premiers chapitres qui vous permettent de découvrir l'histoire sans avoir à lire un manuscrit d'un coup. Et donc les conseils après, c'est beaucoup de patience, de travail et de discipline. Parce que quand un manuscrit est refusé, c'est pas forcément le soumettre tout de suite ailleurs, c'est réfléchir pourquoi il a pu être refusé. Alors, on ne reçoit pas toujours une réponse personnalisée. Hein, des fois c'est merci, c'était très intéressant, mais ça ne correspond pas à ce que tu lis. Donc on ne sait pas pourquoi ça ne correspond pas. C'est prendre du recul, essayer de faire lire des bêta-lecteurs, savoir pourquoi ça plaît, pourquoi ça plaît pas. Quand vous choisissez des bêta-lecteurs, essayez de trouver des gens qui sont un petit peu éloignés de vous parce que les proches ont tendance à vous dire c'est génial, on va vous donner les bons conseils. Voilà, vraiment préparer la correction en amont. Il faut que le livre ait déjà été lu par plusieurs personnes, ait déjà été travaillé avec le retour de ces personnes. après il a plus de chances de séduire un éditeur que la version brute. Mais après c'est au cas par cas, il peut y avoir des auteurs qui rendent une première version déjà très bien. Et plus il sera préparé en amont, plus il aura de chance. Il y a des étapes, quoi. Il y a vraiment l'écriture, la relecture, la correction, et ensuite l'envoi aux éditeurs. Il faut être patient, ça prend du temps, surtout pour les premiers, après ça va. Pour les suivants, c'est un petit peu plus comme ça va. C'est pas pour ça que ça marche aussi vite pour le second ou le troisième.
Justement, pour enfoncer une porte ouverte, les problématiques de l'orthographe, de la grammaire, du style, est-ce que ça peut être, en fait, lorsque tu lis les premiers chapitres, vraiment bloquant, en fait, s'il y a énormément de fautes, ou est-ce que tu essaies quand même d'aller au-delà du bête bécherelle, en fait, pour essayer de voir vraiment ce qu'il y a derrière, en fait, est-ce que l'histoire est intéressante, si elle a été corrigée, est-ce que le boulot est trop important et,
C'est comme tout, il y a un équilibre en fait. Déjà justement, le fait d'avoir un pitch de l'histoire, un synopsis, ça permet de voir ce qui va être... peut déjà essayer de déceler l'originalité, l'intérêt du roman. Si après, dans les premières pages, on voit quelques petites fautes, on va passer outre. Après, si la première page, dans la première phrase, il y a beaucoup de fautes, là c'est sûr que ça va pas être... Même si l'idée de base peut être géniale, on sait très bien que... le temps qu'on va passer à la correction éditoriale va nous pénaliser parce qu'on a une petite structure. On est vraiment deux à travailler et on a quelques auteurs qui nous aident. Mais on ne peut pas s'investir dans un chantier, un ravalement de façade d'un roman. Donc, c'est mesuré. Des fois, il y a des manuscrits qui ont des petites fautes. Graphique, mais personne n'est parfait. Voilà, des copies, on a toujours. On va pas critiquer les premiers à en faire, on oublie. Si le style est intéressant, on va quand même poursuivre la lecture. Mais quand on sent que c'est pas, je sais pas comment dire, que c'est pas littéraire au niveau de l'écriture, là ça va être pénalisant vraiment. Il peut y avoir de très bonnes idées qui ont été refusées parce que au niveau de l'écriture, que ça suivait pas, mais enfin, c'est quand il y a quelque chose qui va et qu'il y a un autre côté qui est trop pénalisant, c'est cruel de dire non. On a envie de. On est une petite structure, non ? On a vraiment cette vocation de faire découvrir des nouvelles plumes, des nouveaux auteurs. Donc, quand on dit non à une idée géniale parce que c'est mal écrit, c'est un petit peu crève-cœur. Après, on peut se dire on aurait dû passer du temps pour réécrire derrière, donner des conseils d'écriture, tout ça, mais on l'a pu ce temps-là. Donc, d'où le travail préparatoire, si la personne peut le travailler en amont. On a refusé un manuscrit récemment. Je sentais qu'au niveau du contenu, c'était intéressant. Il y avait des figures du fantastique qui n'étaient pas souvent exploitées. Il y avait une certaine originalité. À côté, il y avait des clichés qui étaient très pénalisants. Et du coup, j'ai vraiment lu le manuscrit en entier. Il y a eu une fiche personnalisée. J'en ai discuté avec l'auteur, ce qui m'a permis de retravailler. Et là, son roman sort chez un autre éditeur. Mais c'est pas du temps qu'on peut donner non plus à tous les manuscrits qu'on refuse. Donc c'est au niveau de l'équilibre, si on voit... On essaye quand même d'aider, si on sent qu'il y avait du potentiel dans le manuscrit. Sinon, on est obligé de dire non un petit peu sèchement, ce que les auteurs ne comprennent pas toujours d'ailleurs. Donc voilà, on n'est pas là pour peiner les gens ou briser des espoirs. C'est aussi une société qui a besoin de tourner, qui a un planning éditorial très faible parce qu'on a une petite structure, donc il y a déjà... une douzaine de titres par an, c'est assez important hein, pour de notre taille. Donc, on essaie d'apporter l'aide qu'on peut, quand on peut, mais c'est pas toujours possible.
Est-ce que vous avez des questions pour Mathieu, en fait, des interrogations? Je vous laisserai en fait venir à tour de rôle vers le micro, ce sera peut-être plus simple. En fait.
Salut.
En tant qu'éditeur, il y a des choses sur le thème du vampire qu'il faudrait que les auteurs, je veux dire, arrêtent d'écrire, mais évitent au maximum parce que c'est lu et relu.
En en fait, nous, on n'impose rien en termes de, consignes d'écriture. Ce qu'il y a, c'est que si on lit un manuscrit qui est cliché ou rabâché, bah, on va juste dire non. Donc, c'est du temps perdu pour l'auteur. Donc, d'où l'intérêt de, quand on a envie d'aborder un thème... Enfin, il y a vraiment des auteurs qui réécrivent, limite, des copies de sagas anglo-saxonnes parce qu'elles ont adoré, donc elles ont envie d'écrire la même chose. Sauf que c'est pas du tout le bon mode de fonctionnement. Ça serait justement de, pas prendre à contre-pied, mais trouver des éléments qu'on peut reprendre et les traiter d'une manière plus originale. Mais on va pas s'embêter à donner des consignes. Donc je parlais des auteurs qui savent très bien placer des manuscrits avec les tendances actuelles, qui arrivent à traiter des choses qui marchent très bien de manière originale. Et puis il y a les auteurs qui tombent dans le piège de refaire ce qui a déjà été fait parce qu'ils pensent que c'est ce qui marche en ce moment. On n'a pas les... on donne pas les consignes, mais si on reçoit quelque chose de cliché, on va avoir tendance à dire non.
Quelqu'un d'autre aurait une question ? Ne soyez pas timide, hein. Il écrit des trucs sur les vampires, mais il ne meurt pas.
En temps de travail, chacun de tes manuscrits, tu les estimes à combien de temps à peu près ?
En minutes. Hein.
En minutes ?
Ouais.
Précisément ? Ouais, c'est assez difficile parce que, comme je disais, avant d'être publié, quand il n'y a pas de deadline, on a le temps. Et j'aimais bien écrire quand j'avais l'inspiration. Donc, si j'ai dit que mon premier roman, il s'est allé sur 4-5 ans, en termes d'écriture pure, ça m'a pas pris 5 ans, bien sûr. Le plus concret, c'est peut-être Even Dead parce que il a été. C'était un peu un projet de commande. J'avais soumis quelques chapitres déjà écrits au comité de lecture. Et donc après, il s'est écrit peut-être sur 10-11 mois. Elvira, c'est peut-être 5-6 mois, mais pareil, réparti sur un an et demi, puisqu'il y avait les différents épisodes qui sortaient. Ça dépend du... Ça dépend du projet, de la manière dont il est présent dans mon esprit. Et Even Dead, comme je dis, c'est 10 mois d'écriture, mais c'est 4 à 5 ans de préparation mentale sur les personnages, sur les ambiances. Ouais, il a fallu qu'il y ait un déclic supplémentaire, une scène en plus qui est apparue pour me donner envie d'écrire. Donc ça dépend. Le temps d'écriture, c'est en général de 6 à 1 an cumulé. On peut rajouter 4 à 5 mois de correction derrière. Si on prend vraiment l'étincelle jusqu'à la fin du produit, ça peut être plusieurs années. Mais ça a tendance à se rétrécir une fois qu'on est dans le circuit éditorial parce qu'il y a des contraintes.
Tu veux poser une question à Mathieu, Morgane ou... C'est son travail d'auteur et d'éditeur. Quelqu'un d'autre a une question
Tu dis que tu zigzagues entre les différents projets. Comment tu fais pour ne pas te perdre entre tel projet et tel projet, pour ne pas les mêler les uns entre les autres?
Déjà, ces projets, ils sont souvent assez différents entre eux. Donc, que ce soit au niveau du genre littéraire ou même du format, ça peut être du scénario de BD au roman ou à la nouvelle. Donc, il y a quand même une certaine indépendance entre chaque projet. Et ils ont souvent des tonalités différentes, ce qui fait que ça va être selon l'humeur du moment. Si je suis plus dans le divertissement, je vais avoir tendance à avancer sur Elvira. Si je suis plus dans un état émotionnel, râler pâquerette, ça va plus être des drames ou des tragédies, des personnages un peu torturés. Donc, comme les personnages sont différents ou les histoires sont différentes, ils se marchent pas trop les uns sur les autres. Mais après, je peux être coincé en termes de calendrier éditorial à devoir privilégier tel ou tel projet qui ne correspond pas forcément à mon envie du moment. Là en ce moment je suis un peu plus libre au niveau de mes envies, donc j'avance petit à petit. Mais peut-être que si j'ai un premier tome d'une saga qui est accepté chez un éditeur, bah, je vais devoir m'atteler à la suite tout de suite. Pour l'instant, je profite de ce moment de calme pour avancer un petit peu étape par étape chaque projet. Et puis il y en a peut-être un qui va s'imposer à un certain moment et que je vais devoir continuer de manière personnelle ou éditoriale selon le cas. Mais voilà, il y a une certaine indépendance entre les projets qui fait que ils ne se marchent pas les uns sur les autres et j'arrive à pas me perdre dans la conception de chacun.
Quelqu'un d'autre a une question ?
Ouais, écoute, hein. On va te décerner un petit trophée, le meilleur intervieweur.
Ah oui, une publication chez toi, sinon. On n'est pas de maillot. Tu as fait des études d'éthologie, donc sur le comportement animal. Est-ce que ça a une influence sur ce que tu écris ou pas du tout ?
Les personnages sont-ils des insectes ?
Je travaille sur les céphalopodes. J'aimerais. Sans doute pour cerner le comportement de certains protagonistes, mais c'est vrai que par rapport à mes études, c'était vraiment le. J'étais plus impliqué dans l'éthologie animale que l'éthologie humaine. Donc j'aimerais. Bah, disons que ça commence à arriver avec Elvira. J'ai essayé de donner. De traiter la figure du vampire d'un point de vue un petit peu biologiste, et il y a pas mal d'homologies qui sont créées avec le monde reptilien. Ce qui me fait aborder les comportements de manière un petit peu différente, mais c'est pas encore quelque chose qui a une importance primordiale dans le comportement de mes personnages, dans le sens où j'écrivais déjà avant d'entamer ce cursus universitaire. Je pense que c'est quelque chose qui va venir. J'ai quelques projets de romans éthologiques, entre guillemets, mais je pense que c'est à long terme, ça arrivera plus tard. Par contre, ce que j'aimerais bien, j'ai pas mal de clins d'œil sur le monde des céphalopodes qui arrive. Voilà, dans Elvira, il y a un café qui est décoré au thème des poulpes, mais j'aimerais bien trouver l'idée qui me permette vraiment de parler du comportement de ces bêtes-là. Parce qu'il y a vraiment un côté fascinant à exploiter. Lovecraft l'a fait un petit peu, mais de manière très éloignée. Je pense qu'il y a moyen d'exploiter ça, mais j'ai pas trouvé l'idée qui me donne envie encore de. J'ai pas envie de le faire mal, donc j'attends d'avoir le déclic, le bon déclic.
Quelqu'un d'autre aurait une question ?
Sinon, je pense que. On va donc mettre un terme à cette masterclass. Donc, bah, merci à vous d'être venu écouter Mathieu. Vous pouvez retrouver sur le stand des éditions du Chêne Noir pour Dead Time et Even Dead Time Figure Love. Donc, et à tout à l'heure.